Alors, on va reprendre avec cette remise des prix pour les Challenges 2018. D'abord, je voudrais commencer par quelques remerciements. D'abord pour CFM qui nous aide beaucoup et à financer ces challenges, notamment la reprogrammation de tout le site web, l'École normale supérieure, bien sûr, qui nous donne tout ce cadre et le support, ainsi que la Fondation des sciences mathématiques de Paris, qui est une fondation qui regroupe tous les laboratoires et essentiellement des activités de mathématiques à Paris. Mais il y a surtout un certain nombre de personnes qui sont responsables de l'organisation de ces challenges. Et je vais juste faire un petit zoom sur trois d'entre elles. D'abord, Mathieu Andrieux, qui a véritablement organisé, a été le pilier de l'organisation de tous les challenges 2018, qui est ici et que je voudrais remercier particulièrement. Et puis, John Zarka aussi, qui est le maître d'œuvre pour toute cette année 2019 et qui a organisé toutes ces séances, y compris celle ici, ainsi que Louis Thierry, qui est celui qui a fait toute la reprogrammation avec une petite équipe du nouveau site web. Donc le nouveau site web, normalement, doit fonctionner. Les challenges sont écrits pour mon cours et donc vous allez pouvoir commencer. Et bien sûr, je voudrais remercier les fournisseurs de challenges pour l'année 2018 ainsi que 2019. Alors, le programme aujourd'hui, cette deuxième partie, ça a consisté en quatre présentations courtes de à peu près 8 minutes. Donc, j'ai demandé aux intervenants de respecter cette durée, suite à quoi vous pourrez poser quelques questions. Et puis après, il y aura aussi la remise des prix pour l'ensemble des gagnants des 13 challenges de 2018. Et il y aura à la fin, il y a un pot qui est organisé, qui est actuellement mis en place pour pouvoir interagir avec les challengers, aussi bien que les gens qui ont fourni ces données. Voilà, donc on va commencer avec le challenge de CFM et le gagnant qui est Cyril Delabre, pardon, excusez-moi. Et donc, voilà, John Zarka, que je voudrais, merci à nouveau. Et donc, vous avez 8 minutes pour faire votre présentation. Merci et bravo.
Bonjour à tous. Donc, je vais présenter la solution du Challenge CFM. Je m'appelle Cyril Delame, je travaille chez Deezer en tant que data scientist. Il y a le lien du GitHub avec la solution qui avait été faite en juin dernier et ainsi que mon email si vous voulez me contacter pour d'autres questions. Voilà. Juste un petit récap sur le challenge. Donc, c'est à peu près le même challenge que ce qui est fait cette année. L'idée, c'était de prédire la volatilité des stocks. Donc, la volatilité, c'est grossièrement la déviation standard sur une période donnée. Donc, c'est la volatilité sur 5 minutes à chaque fois. On avait 54 volatilités de 9h à 14h et on devait prédire la volatilité de 14h à 16h. En plus, on avait le retour, donc c'est le signe du stock toutes les 5 minutes. Et on avait 318 produits dans le train et dans le test, ainsi que des dates. Par contre, les dates étaient hachées et on n'avait pas forcément les mêmes dates dans le train. On n'avait pas les mêmes dates dans le train et dans le test. Alors que pour les produits, on avait les mêmes produits dans les deux. Autour de 1 million de lignes. La métrique, c'était l'erreur absolue moyenne en pourcentage, donc MAP. Et le benchmark de CFM, à l'époque, c'était 28%, donc c'était juste la moyenne de toutes les volatilités qui étaient données. Le score académique en juin dernier, enfin, mon score académique, c'était 20,87%. Donc, voilà. Au niveau de la solution, rapidement, donc, en termes de, il y avait quand même pas mal de valeurs nulles, donc je n'ai pas trop travaillé sur les valeurs nulles. Là, c'était juste une interpolation des valeurs nulles. Donc, c'est prendre sur une série temporelle, prendre la valeur précédente ou la valeur suivante et faire la moyenne entre les deux pour considérer que cette valeur est à peu près entre ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Un peu de feature engineering que je vais expliciter tout à l'heure, une notion de embedding sur des variables catégoriques et des LSTM layers, donc c'est des réseaux de neurones récurrents. Donc la solution, c'est un réseau de neurones profonds. Voilà. Vu qu'il y avait pas mal de données, on pouvait utiliser ce genre de réseau assez facilement. Au niveau du feature engineering, on se rend vite compte en fait que la target, donc la volatilité, est très dépendante de la date et des produits. C'est-à-dire en fait que pour une même date, on va avoir des volatilités qui sont assez similaires, et pour un même produit donné, on va avoir des volatilités qui sont assez similaires, parce qu'un produit se comporte de la même manière au fur et à mesure du temps, et pour une date, les produits se comportent de la même manière pour une date précise. Donc l'idée, c'était de faire une agrégation sur tout le, par date et par produit sur tout le dataset. Donc en code, ça se résume à faire un group by par le produit et calculer la moyenne, la médiane, le nombre de valeurs minimum, enfin le nombre de valeurs nulles, etc. Donc plein de features en plus. Et pour, au niveau des produits, on se rend compte aussi qu'il y a certains produits qui ne sont pas forcément dans les dates. Et inversement, dans, sur des dates, certains produits ne sont pas forcément là. Donc on va essayer de compter le nombre de fois où on le voit dans une date et le nombre de fois où un produit est vu dans une date, ce qui permet de rajouter de l'information et potentiellement se dire que bah, y a eu quelque chose qui s'est mal passé ce jour-là, donc on veut l'identifier pour que le réseau neuronal l'identifie. À la fin, on a donc la volatilité et le retour, donc c'est des vecteurs de 54 dimensions, ainsi que les features qui sont calculées, donc la volatilité par date moyenne, la volatilité par produit moyen, qui sont aussi des vecteurs de 54 dimensions à chaque fois, et des variables catégoriques, donc le produit, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et le nombre de valeurs nulles sur la ligne, etc. Donc ça fait pas mal de features. Pour les variables catégoriques, moi j'ai décidé d'utiliser des embeddings. Donc au lieu de faire ce qu'on fait généralement en fait quand on a des variables catégoriques, c'est qu'on va faire du one hot encoding. Pour des produits de dimension n, on va créer n colonnes, on va mettre 1 0 0 0 0 1 0 0 0 etc. Comme ça on va pouvoir dire quelle catégorie, une colonne par catégorie. L'idée de faire des embeddings, c'est plutôt dire au réseau, je te donne un certain nombre de dimensions, donc une dimension K, et c'est à toi de t'entraîner toi-même, de trouver les bons chiffres qui permettent de donner les similarités entre les produits. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé en NLP, notamment sur du Word2Vec. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources là-dessus, qui est moins utilisé sur des variables catégoriques, mais qui est quand même déjà assez ancien, enfin ancien en termes de machine learning. Ça, c'est des papiers qui datent de 2016, donc ça a déjà 2 ans, donc c'est entre guillemets ancien. Ce que ça permet aussi, c'est que par exemple dans cet exemple, on a le produit 2 et le produit n-1, on se rend compte en fait que le réseau a appris et les choses sont assez similaires, enfin, les scores sont assez similaires, donc potentiellement si on remet dans une dimension plus faible, on aura ces deux produits qui seront proches l'un de l'autre, parce qu'ils se comportent de manière similaire. Dernière chose, donc des LSTM, donc c'est des réseaux de neurones récurrents. Je ne vais pas forcément expliquer ce que c'est, mais il y a beaucoup de ressources. Ici, j'ai utilisé Janet Network, donc c'est un papier qui est sorti en 2018 qui est un réseau assez similaire à des LSTM. L'idée de cette slide, ce n'est pas tant de dire que c'était le Janet Network qui marchait le mieux, c'était surtout qu'en fait il était beaucoup plus rapide et il marchait mieux en l'occurrence, mais c'est surtout de dire qu'il y a beaucoup de papiers qui sortent tous les ans, c'est facile de trouver du code sur GitHub en l'occurrence, qui est implémenté, qui permet d'être utilisé avec des frameworks assez classiques, et donc c'est assez facile en fait de pouvoir tester des choses sur des papiers récents, et des fois en fait ça marche assez souvent, surtout quand on veut aller sur l'état de l'art ou être dans les premiers, en général on veut essayer d'avoir des papiers qui viennent juste de sortir et être plutôt moins sur l'état de l'art. Notamment aussi quand on a, le choix que j'ai fait, c'était de faire une solution qui était assez générique. En fait, il n'y a quasiment rien de finance dans ma solution. Et donc, il fallait que je sois quand même bon en termes de modèle et pas forcément bon en termes de feature engineering. Donc ça, c'est un peu une slide un peu violente. Mais l'idée, c'est juste que le réseau, c'est juste pour vous donner un contexte. Donc les embeddings à gauche et des LSTM à droite. Donc les embeddings avec le product ID et les différentes dates, etc. Et à droite, des LSTM avec la volatilité et les volatilités qui ont été agrégées en plus. Donc c'est très complexe, le réseau est assez complexe à la fin, et donc il est assez lourd à entraîner, mais il donne des bons résultats. Après, c'est juste des réseaux denses et de régularisation assez classiques à la fin. Dernière chose, juste quelques conseils, bon c'est peut-être des conseils assez simples, mais je pense que c'est très important en fait de commencer avec un modèle très simple au départ, essayer de faire de la validation croisée dès le début, s'assurer en fait que la validation justement est similaire au test, donc on a à peu près le même résultat en validation que sur le leaderboard d'une part, et qu'on a aussi de l'homogénéité entre la validation et le test. Par exemple, dans l'exemple de CFM, on n'avait pas les mêmes, les dates étaient présentes dans le train et dans le test n'étaient pas les mêmes. Donc en fait, si on entraîne la validation avec des dates qui sont présentes dans le train, bah finalement le réseau va être meilleur parce qu'il a des informations en plus. Donc l'idée était de mettre dans la validation des dates que le train n'avait pas, pour être de la même manière que la partie de test. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Pareil, essayer de commencer avec moins de données. Quand il y a beaucoup de données, en fait, et quand c'est des gros réseaux, bah, c'est mieux de, en général, un réseau qui a moins de données et qui est bon, sera, et bah, si on met plus de données, il sera meilleur, mais il sera meilleur qu'un réseau qui est mauvais déjà de base. Alors, c'est plus de l'empirisme, mais en général, ça marche, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est pas forcément vrai tout le temps, mais en général, ça marche, donc c'est plus facile d'essayer avec moins de données, voir si ça marche un peu, et après passer sur tout l'ensemble du dataset. Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est essayer ouais, différentes architectures. Il y a beaucoup de papiers qui sortent sur Internet, il y a beaucoup de code qui est publié, donc c'est intéressant de s'intéresser à l'état de l'art, ça permet de progresser énormément. Le sujet de moi, personnellement, le challenge, je voulais juste apprendre à utiliser des LSTM et parler des embeddings, donc ça m'a permis de monter en compétence sur ce sujet, et c'est notamment en lisant des papiers, en implémentant des papiers, des choses comme ça, qui permet de monter en compétence énormément. Par contre, un des problèmes, c'est qu'on a tendance à tester beaucoup de choses, et après on oublie ce qu'on a testé, et donc on n'a plus la trace des résultats, donc c'est très important de garder quand même une bonne trace des résultats pour que potentiellement après on puisse réutiliser. Et dernière chose, c'est enregistrer les modèles qui sont bons dès le début. Ce qui marche en général très bien, c'est de l'ensembling, donc c'est faire une moyenne de ces différents modèles ou prendre le résultat, la prédiction de plusieurs modèles et refaire un modèle par-dessus. Donc si on ne garde pas les modèles au fur et à mesure du temps, on se retrouve à la fin avec un seul modèle, alors que potentiellement on aurait pu réutiliser tout ce qu'on avait utilisé avant. Dans mon exemple concret, le score avec un seul modèle, c'est 20,95, quelque chose comme ça. Et en faisant juste la moyenne des 10 meilleurs modèles que j'avais déjà, en fait, j'arrive à 20,88, ce qui n'est pas énorme de différence, mais ce qui est relativement fort par rapport au challenge. Donc c'est toujours utile d'avoir gardé les modèles et pour l'usage à la fin. Et voilà, c'est tout. Alors pour les embeddings, c'était une méthode supervisée. Donc en fait, on met directement les embeddings dans le réseau de neurones. Hop. Et en fait, c'est les embeddings vont s'entraîner en fonction de la target. Donc ils vont être vraiment utiles à la target. Une des possibilités qui aurait pu être faite aussi, c'est de faire ce qu'on appelle des auto-encodeurs, par exemple, et de récupérer le layer du milieu, qui est une sorte d'embedding en fait aussi, et de pouvoir le réappliquer. Donc ça, c'est une méthode non supervisée. Mais là, en l'occurrence, c'était des embeddings supervisés. Pour la deuxième question, les LSTM marchaient déjà très bien, de base. En fait, ça change quasiment rien. C'était surtout un gain de temps. En fait, comme la série temporelle qui était donnée était uniquement de 54 colonnes, c'est une série temporelle qui est assez simple, et les LSTM sont plutôt connus pour être bons sur du long terme, alors que les Gen Network sont bons sur des séries qui sont courtes. Donc c'était plus ça pas que vraiment le fait juste d'utiliser le GenNet. Voilà. Alors moi j'ai un ordinateur avec, c'est un Mac avec 16 Go de RAM et qui date de 4 ans à peu près. Donc il est assez ancien, c'est pour ça que je disais que c'est assez long, typiquement pour faire tourner tout ça avec une validation croisée de 5 fold, donc ça veut dire 5 fois entraîner le modèle. Ça prenait autour de 6 heures à peu près, donc c'est quand même assez dense, sans GPU, etc. Par contre, avec des GPU et avec des technos modernes, je pense que c'est très rapide. Donc c'est pour ça que je dis, moi ce que j'ai fait, c'est vraiment utiliser des plus petits, tester beaucoup de choses plus petites, et ne lancer qu'une fois les 6 heures, parce qu'en fait, une 6 heures, c'est vraiment une perte de temps. Donc l'idée, c'est de pouvoir essayer de faire l'un et l'autre sans non plus devoir dépenser de l'argent pour avoir des GPU, etc. Alors moi j'ai pas trop fait d'ensembling, la seule chose que j'ai fait c'est que j'avais récupéré tous les tests qu'il y avait, toutes les prédictions que j'avais fait au fur et à mesure du temps, j'ai juste fait une moyenne de toutes ces prédictions là. C'est ça. Enfin en gros oui, entraîner plusieurs réseaux qui ont prédit un dataset de prédictions et à la fin on moyenne juste le tout. Et déjà avec ça on a un énorme gain. Alors, si j'avais pu faire du vrai ensembling où j'aurais remis un modèle par-dessus qui serait entraîné, qui aurait mis des poids en fonction des différents modèles, ce qu'on fait en général, je pense que j'aurais réussi à avoir un meilleur résultat. Mais je ne l'ai pas fait. Alors, ouais, oui, quand je dis payant, c'est qu'en général, on a besoin d'une machine ou des choses open source. Je sais que, par exemple, c'est avec Google où on a la possibilité d'avoir un notebook avec des GPU, donc il y a la possibilité de faire ça, mais plus de manière générale que l'accès aux GPU n'est pas forcément pour tout le monde sur son ordinateur en local personnel, c'est tout.
Attends. J'ai le droit au livre qui a été utilisé l'an dernier, qui est un très bon livre d'ailleurs que je recommande, Understanding Machine Learning par Shalev Schwartz et Shai Ben-David. Et puis, félicitations. Et donc, le représentant qui a organisé cette challenge de CFM, avec qui vous pourrez discuter à la fin si ça vous intéresse. Félicitations. Merci. Alors, le challenge suivant a été proposé par Dream. Le meilleur participant était Didier Giton, qui est ici. Peut-être Dream, le représentant de Dream est là, peut-être. Oui, peut-être qu'on peut d'ailleurs commencer par la remise pour faire dans l'ordre. Donc, le challenge, on l'installe peut-être en parallèle. Donc, le challenge, c'est sur un problème de classification de stade de sommeil. Donc, d'abord, félicitations. Je vous remets le certificat. Et donc, je ne sais pas si vous voulez dire un mot par rapport au challenge.
Ouais, du coup, c'est la troisième année qu'on a organisé le challenge. Du coup, on a eu des résultats assez intéressants tout au long de l'année. Et donc, merci à Didier de nous présenter cette solution.
Bonjour. Donc, ce challenge, je l'ai choisi comme projet d'application d'une formation dispensée à Polytechnique Executive Education et soutenue par mon employeur, la société Onyx. Donc il concerne le bandeau Dream. On va voir vite fait ce que c'est que le bandeau Dream. C'est un dispositif tour de tête qui enregistre des signaux pendant la nuit. Donc on a accélération, électroencéphalogramme. Et ce bandeau, le signal enregistré pendant la nuit par tranche de 30 secondes, on peut évaluer le stade de sommeil du dormeur. Donc le stade de sommeil, c'est l'éveil au sommeil profond. L'historique de ces stades de sommeil pendant la nuit, c'est l'histoire de votre nuit qui va être un peu révélateur du fait que vous êtes reposé ou pas. Et donc, en fin de compte, on observe un certain nombre d'événements qui permettent de faire un diagnostic sur la qualité de votre sommeil. Le challenge lui-même, ça consistait en des périodes de 30 secondes. Pour chaque période de 30 secondes, étaient fournis 9 signaux. Et le but du challenge, c'était de trouver, d'étiqueter la phase de sommeil correspondant à chaque phase de 30 secondes. Bon, on a à peu près 40 000 données d'apprentissage pour l'apprentissage et 20 000 en test. Donc notre approche a été une approche beaucoup d'extraction de paramètres et essayer d'extraction de caractéristiques et faire une classification sur ces caractéristiques. Quelles caractéristiques extraire ? Bon, les amplitudes du signal et des caractéristiques en fréquence. Et comme on a en fait trois types de signaux, on a trois chaînes d'extraction des caractéristiques. Alors le plus simple, c'est l'accélération. Je vous ai représenté... Qu'est-ce qu'on voit sur l'accélération ? On voit en fin de compte le mouvement de respiration dont on peut corréler avec la phase de sommeil parce que si elle est régulière, ou l'absence de respiration s'il y a des apnées, ou quoi d'autre, ou d'autres mouvements qui peuvent être révélateurs d'une autre phase de sommeil. Donc là, vous avez deux exemples de signaux d'accélération, une très régulière, une qui a commencé sans doute par une apnée, puis une reprise de la respiration. Bon, pour extraire des caractères d'amplitude, on se base typiquement sur l'enveloppe, qui est calculée très simplement sur les trois voies, et pour les caractéristiques en fréquence, on a fait un calcul de fréquence instantanée qui s'obtient avec cette formule-là et sur lequel on mesure tout simplement la moyenne, la médiane, etc. Donc là, on a nos paramètres, nos caractéristiques pour la voie accélération. Deuxième type de signal, l'oxymètre de pouls. Dans cet oxymètre de pouls, on voit la fréquence cardiaque, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est quelle fréquence et est-ce qu'elle est régulière. Donc on a deux voies d'oxymètre de pouls. Et par contre, ce signal est entaché d'erreurs. D'une part, il y a des pics forts en amplitude, ce qui ne sont pas du tout intéressants, parce que c'est des mouvements, c'est le capteur qui a bougé. Et il y a d'autres moments où le signal est complètement perdu dans le bruit, Ça, c'est parce qu'il doit y avoir des cheveux qui se sont mis entre le capteur et le scalp. Pour extraire des paramètres sur ces signaux, en amplitude, c'est une démarche classique, min, max, moyenne du signal ou de sa valeur absolue. Et en fréquence, on a choisi une analyse par transformée de Fourier à fenêtre. On prend le signal, on le découpe en fenêtres. Dans chaque fenêtre, on calcule un spectre. Et sur ce spectre, on mesure la moyenne ou la médiane ou la fréquence médiane. Troisième type de signaux, l'électroencéphalogramme. Alors l'électroencéphalogramme, c'est un signal très compliqué. Les experts qui dépouillent des électroencéphalogrammes ont un vocabulaire très riche pour décrire tous les types de formes d'ondes qu'ils trouvent dans ce signal. Et donc je vous ai représenté ici les quatre voies encéphalogrammes pour une période. Déjà pour ces quatre voies, on voit une grande diversité d'amplitudes, de formes. Et de forme, un autre exemple d'électroencéphalogramme en haut, c'est en fin de compte un moment où il y a des décharges synchronisées de neurones. On a nos trois voies électroencéphalogrammes bien superposées, enfin avec cette forme très triangulaire. Et la quatrième voie à zéro, doit y avoir un problème de capteur. Sur ce signal électroencéphalogramme, on a des problèmes de pic de forte amplitude, jusqu'à 10 puissance 5 fois le signal normal. Bon, ça, c'est dû à des mouvements qui peuvent être ou pas indicateurs d'une phase de sommeil, mais c'est aussi ce qui est important, c'est aussi ce qui se passe en dehors des pics d'amplitude. Donc, il ne faut pas être ébloui par ce grand pic quand on analyse une séquence de 30 secondes. Bon, les paramètres d'amplitude, c'est les classiques. On prend le signal et sa valeur absolue, on mesure le max, le min, la moyenne, etc. Pour les paramètres en fréquence, j'ai oublié, oui, on peut aussi analyser les corrélations entre les signaux, entre les voies, ce qui peut nous donner une indication éventuelle, je ne sais pas encore, ça dépend de ça sera tranché par la classification plus tard. Et pour ce qui est des paramètres en fréquence, on fait une analyse par transformée de Fourier dans des fenêtres. Alors là, l'algorithme est un peu original, je me suis bien amusé à développer ça. On ne peut pas se résumer à une fréquence, parce que c'est un peu trop simple pour décrire le signal électroencéphalogramme. Et donc, en fait, on va garder des densités spectrales de puissance complètes, des portions de spectre de puissance. Là, je vous ai mis en première le premier graphique, c'est comment on calcule une densité spectrale de puissance moyenne sur une période. Donc, on découpe notre signal en fenêtres. Dans chaque fenêtre, on calcule le spectre. On normalise ces spectres et on fait la moyenne des spectres normalisés. Et si on répète cette opération sur tout l'ensemble de l'apprentissage, on peut. Donc là, il y a déjà un petit peu de machine learning, puisqu'en fait, on va apprendre les composantes principales de notre ensemble d'apprentissage. On retient des paramètres, des composantes. Quand on traite donc en fin de compte une ligne, une période de 30 secondes, il faut passer par la DSP moyenne, puis projeter sur nos composantes principales. On est passé d'un problème à 3700 variables à un problème à des variables qui est beaucoup plus petit. Maintenant qu'on a tous nos attributs, nos caractéristiques mesurées sur les signaux, on va pouvoir appliquer un algorithme de classification. Bon, le risque, c'est le kappa de Cohen. Nos variables, c'est 240 variables extraites des 9 signaux. Et après plusieurs essais, je n'ai pas essayé de réseau de neurones, mais plutôt d'autres algorithmes, on a choisi un algorithme d'arbre boosté, XGBoost. Alors, à l'issue de la recherche de l'optimisation de cet algorithme, on s'aperçoit qu'il faut des arbres très profonds. Donc, en fin de compte, on va avoir un modèle très compliqué avec un risque d'overfitting. C'est donc quelque chose à surveiller. Le graphique représente l'utilisation des variables. Donc, en fin de compte, on s'aperçoit qu'elles sont à peu près toutes utilisées. La classification va donc se baser sur beaucoup de variables en prenant un petit peu d'indices dans chacune des variables. Et le premier score de classification avec ce modèle, c'est donc 0,68. Mais on s'est aperçu que dans notre jeu d'apprentissage, les phases de sommeil
entre des périodes consécutives sont très corrélées. Et en fait, dans notre ensemble d'apprentissage, ce n'est pas des périodes de 30 secondes aléatoirement prises, mais ce sont des nuits entières. Et là, on voit très bien une nuit qui commence par l'éveil à zéro et qui se termine à peu près à 7 heures en éveil. Et donc, pour améliorer notre classification, l'idée est de tenir compte de cette corrélation entre les périodes. Pour ça, on va construire un autre modèle de classification qu'on va appeler lissage temporel. Pour apprendre ce modèle, il lui faut des données d'apprentissage. Donc, on construit les données d'apprentissage à partir d'une validation croisée du premier modèle. Et le résultat de la sortie de ce deuxième... On prend un modèle assez simple, entre guillemets, c'est-à-dire un modèle linéaire, GBD classifieur, et le premier résultat est nettement amélioré par rapport au premier modèle, tout simplement. En prenant un voisinage de trois périodes consécutives, c'est-à-dire si on regarde sur une minute et demie, on obtient un score de 0,704. Si on prend 5, c'est-à-dire 2 minutes et demie, on obtient un score de 0,708. Et c'est ce score qui a été gagnant du challenge jusqu'à fin décembre. Et donc, à fin décembre, on a eu accès au score sur les données privées. Et là, on a une très bonne nouvelle, c'est qu'on a un score encore meilleur. Donc, en fin de compte, notre modèle fait sans doute peu d'overfitting, il y a de bonnes capacités de généralisation. Et voilà, c'est donc tout ce que j'ai à dire. Donc je remercie le Collège de France de m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation, ainsi que Polytechnique et le groupe Onyx. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà.
Alors le challenge suivant a été proposé par la société Okin et a été gagné par Benoît Schmoch. Et je ne sais pas s'il y a un représentant d'Okin. Alors Okin, c'est une société qui a été créée par un chercheur de l'École normale supérieure, qui était un collègue, qui est une très belle société, je dois dire. Et peut-être si tu as un mot à dire sur...
Bon, en fait, le challenge était organisé par Okin et l'INSERM, en collaboration entre les deux. C'était un challenge pas facile, avec beaucoup de features, pas vraiment, où la structure n'était pas vraiment évidente. Et donc, félicitations aux gagnants.
Donc voilà, on vous remet, bravo, le prix, le livre et le calendrier de la FSMP. Donc, félicitations.
Merci. Donc je m'appelle Benoît Schmoch, je travaille actuellement en tant que data scientist chez Okin. Donc Okin, comme vous le savez, qui a co-organisé ce challenge en partenariat avec l'INSERM. Alors avant de poursuivre, je précise que ce n'était pas encore le cas lorsque j'ai travaillé sur ce challenge, puisque j'ai soumis ma dernière solution au mois de juin et j'ai commencé mon contrat chez Okin seulement 2 mois plus tard. Donc dans ce challenge, comme l'indique son titre, le but était d'essayer de prédire si un patient est porteur ou non d'une maladie à partir d'informations génétiques. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus en détail après. Pour décrire rapidement mon état d'esprit, alors j'ai eu une approche beaucoup plus expérimentale que théorique. Et pour être tout à fait honnête, je me suis pas mal laissé guider par le classement public qui évoluait au fil des soumissions. Donc ça, c'est un peu la particularité d'un challenge, c'est-à-dire que parfois on fait des efforts pour gagner ne serait-ce qu'un millième de points d'AUC, là où dans un autre contexte, on se concentrait sans doute d'une solution un peu plus simple et un tout petit peu moins performante. Et enfin, je dois reconnaître qu'il y a une petite part de chance dans le résultat, puisque ce challenge était très serré. Comme vous pouvez le voir, les écarts d'AUC entre les 5 premières places étaient de l'ordre de 10 puissance moins 3, donc ça s'est allé entre 0,875 et 0,876. Donc ça, c'est pour relativiser un peu le résultat. Donc maintenant, pour présenter les données, alors les variables à notre disposition étaient ce qu'on appelle des polymorphismes nucléotidiques, qu'on appelle aussi SNP. Donc en fait, ce sont des paires de bases de l'ADN qui sont susceptibles de varier d'un individu à l'autre d'une même espèce. Donc, par exemple, il peut y avoir un emplacement dans le génome où certains individus vont être porteurs des bases A et T, là où d'autres individus vont être porteurs des bases C et G, et c'est une variation tout à fait normale. Donc il y en avait un peu plus de 36 000, ou pour être précis, 18 124 fois 2 chromosomes, puisque comme vous le savez, nos chromosomes vont par paire. Donc ces SNP sont répartis un peu partout dans le génome, et ici, dans les données du challenge, ils étaient non ordonnés, donc ce qui fait qu'il n'était pas possible de traiter ces données comme une séquence. Et enfin, ces SNP étaient binarisés, c'est-à-dire que pour un emplacement donné, donc 0 représentait la paire de bases la plus fréquente dans l'espèce humaine, et 1 représentait la variante minoritaire. Donc je vous ai mis ici un exemple avec un tout petit extrait de la base de données. Donc ici, vous pouvez voir le SNP 0A et le SNP 0B correspondent en fait au même emplacement, mais sur deux chromosomes d'une paire. Donc la cible à prédire était également binaire et elle valait 0 pour la paire de base la plus elle valait 0 pour les patients du groupe de contrôle et 1 pour les patients porteurs de la maladie, et donc la métrique de succès était tout naturellement l'AUC. Et donc pour finir là avec les chiffres sur les données, les organisateurs avaient fourni les données de 26 500 patients pour l'entraînement des algorithmes et la moitié pour le test. Donc on avait une matrice d'entraînement qui avait une forme de 26 500 exemples fois un peu plus de 36 000 variables. Donc la première étape a été un petit pré-processing. Donc en fait, je me suis limité à une seule opération très simple qui a consisté à sommer les paires de SNP en partant du principe que les deux chromosomes d'une paire sont interchangeables. Donc j'ai considéré que l'information importante, c'était... Pour un SNP donné, finalement, combien l'individu possède d'exemplaires de la variante minoritaire, 0, 1 ou 2. Donc ici, vous voyez trois petits exemples. Dans le premier cas, vous avez le SNP 0A qui vaut 1 et le B qui vaut 0. Donc il y a un chromosome qui est porteur de la variante minoritaire. Dans le deuxième cas, il n'y en a aucun. Et dans le troisième cas, vous avez la variante minoritaire qui est présente sur les deux chromosomes. Donc cette opération permettait déjà de réduire la dimension d'un facteur 2, tout en conservant l'information qui me paraissait importante. Et donc ensuite, donc quand j'ai commencé à travailler sur ce problème, mon principal effort initialement a consisté à essayer de continuer à réduire la dimension du problème, avec au début essentiellement deux motivations. Donc déjà, à ce moment-là, je travaillais sur une machine sur laquelle j'avais des contraintes assez fortes de mémoire CPU. Et aussi, j'avais la volonté de pouvoir expérimenter rapidement et avoir des premiers résultats. Donc pour ça, j'ai eu une démarche de sélection des variables. Donc j'ai essayé de trouver parmi mes 18 000 variables celles qui étaient pertinentes pour traiter le problème. Et donc, très schématiquement, ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai d'abord divisé l'ensemble d'entraînement en plus petits sous-ensembles. J'ai travaillé séparément sur ces sous-ensembles pour sélectionner mes features. Et à la fin, j'ai regroupé tous les patients de l'ensemble d'entraînement en gardant uniquement les features sélectionnées pour entraîner mon modèle final. Donc, alors ce schéma montre ça un peu plus en détail. Bon, alors tout d'abord, j'ai retenu 10% des patients pour me constituer un ensemble de validation. Et ensuite, j'ai divisé les 90% restants en sous-groupes. Et sur chaque sous-groupe, j'ai appliqué un premier modèle de machine learning dans le seul but de sélectionner des variables. Donc par exemple, en première approche, j'ai utilisé à ce stade une régression logistique. Donc j'ai entraîné ma régression logistique sur chacun de ces groupes, et à chaque fois, j'ai retenu les variables les plus importantes, c'est-à-dire celles qui se voyaient affectées les plus grands coefficients par la régression logistique. Donc après ces étapes, j'arrivais à un nombre de variables donc inférieur à mes 18 000 de départ. Et comme je l'ai dit précédemment, j'entraînais mon modèle final sur ces variables en utilisant cette fois-ci tous les patients de l'ensemble d'entraînement. Donc ça c'est la trame principale que j'ai suivie. Ce qui a varié, c'est que j'ai testé donc différents algorithmes à la fois pour la sélection des features et pour la classification finale. Et aussi j'ai joué avec le nombre de variables retenues. Et donc... j'ai fait évoluer ça jusqu'à ma version finale. Donc, comme je vous l'ai dit initialement, j'étais plutôt dans une démarche de sélection d'un petit nombre de variables, Donc au début, j'étais avec quelques milliers de variables sur mes 18 000. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler sur une machine un peu plus performante, je me suis permis d'en retenir un plus grand nombre. Et donc à la fin, j'étais plutôt dans une démarche d'élimination. Donc dans la version finale, j'ai gardé en fait plus de la moitié de mes 18 000 variables. Donc en ce qui concerne les algorithmes, donc je me suis fixé sur du gradient boosting. Et donc plus précisément, j'ai utilisé la librairie XGBoost pour la sélection des variables et l'IGBM qui a l'avantage d'être assez rapide pour la classification finale. Le choix de ces deux librairies pour ces étapes est purement empirique. Et j'ai aussi joué un peu avec les hyperparamètres de ces algorithmes, mais ce n'est pas là-dessus que mon effort principal a porté, et au final j'ai assez peu dévié des paramètres par défaut. Et donc, une fois que j'ai fixé cette procédure, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai répété sur une sorte de validation croisée. Donc j'ai répété à la fois la sélection des variables et la classification finale sur 10 partitions différentes entre ensemble d'entraînement et ensemble de validation. Donc je me suis retrouvé avec 10 modèles qui étaient entraînés sur 10 ensembles de features différents. Et donc ma prédiction finale pour un patient de l'ensemble test, c'était tout simplement la moyenne des prédictions des 10 modèles. Et donc en suivant cette approche, je suis arrivé à une AUC de 0,872 sur le classement public, qui me plaçait en troisième position, et donc je me suis arrêté à ce stade. Et comme je vous disais, bon, la petite part de chance, c'est que finalement sur le classement final, j'avais un résultat légèrement meilleur avec cette AUC de 0,867. Voilà qui résume mon approche. Merci de votre attention.
Dernière présentation avant la remise des autres prix va être faite par les deux gagnants du prix du challenge de Réminis, donc de Dan Constantini et Tom Hayat. Voilà. Allez, donc les challenge providers n'ont pas pu venir là. Ce sont deux élèves du MVA, donc bravo. Voilà pour tous les deux et les deux livres. Et donc c'est un challenge sur la prédiction et l'identification plutôt de célébrités, donc qu'on va entendre. Merci beaucoup.
Merci. Donc bonjour à tous. Tom et moi allons vous présenter le challenge de Réminis, qui consistait en l'identification de célébrités dans des vidéos, dans des films. Donc on l'a fait quand on était au MVA. Donc tout d'abord, petite introduction. Réminis, c'est une start-up qui propose des solutions aux opérateurs pour identifier les célébrités quand vous regardez la télévision. Le but, c'est d'obtenir des métadonnées quand on est utilisateur final et quand on regarde un film. Donc le dataset comportait deux types de données, donc des données qu'on appelait les données d'image web, donc donc il y avait 1000 classes, chacune des classes comportait 10 images, donc c'est 1000 classes, 1000 acteurs, et ensuite parallèlement on avait des tracks, ça correspondait à environ 100 000 images et donc 2500 tracks. Une track correspond à une séquence d'images dans une vidéo, donc là par exemple on va avoir une centaine d'images de Mark Ruffalo. Et donc il faut essayer de faire de la data manipulation pour réduire cet espace. On avait plusieurs difficultés, en particulier le fait que ces classes étaient donc non équilibrées, avec des classes qui comportaient énormément plus d'exemples que d'autres. Pareil, il y avait des images avec pas mal de bruit dû au fait que des classes qui comportaient que 10 images, il y avait des acteurs qui avaient des lunettes, qui avaient des coupes de cheveux différentes, des choses différentes. Et donc il fallait prendre ça en compte, et voilà.
Donc comment on a procédé? Donc de manière assez simple. Donc déjà on prend les images en entrée, on a nettoyé un peu les tracks, ensuite on a fait la data augmentation, et ensuite on a utilisé un algorithme de face detection pour vraiment zoomer sur l'image, même si on avait le visage qui était au centre de l'image, on a préféré vraiment enlever tout le bruit autour et vraiment se concentrer sur le visage. Ensuite on a utilisé un algorithme donc d'embedding de visage, donc FaceNet, et par-dessus on a mis un classifieur, notamment sur la distance entre notre base de données, donc notre training, notre base de training qui nous permet d'avoir l'espace, et ensuite on calculait la distance entre la base de données de training et l'élément de test.
Donc, on va vous présenter rapidement les deux premiers algorithmes. Ensuite, on va passer à la data manipulation. C'est là où on a fait vraiment le plus dur du travail. Pour détecter les visages dans une image, puisque les images comportaient pas mal de visages, et donc il fallait sélectionner le visage le plus important, on a utilisé le réseau MTCNN qui comportait un bon compromis entre l'accuracy et la rapidité du réseau. Et ce qui était intéressant pour nous, parce que nous, on avait une contrainte de real-time detection pour que Reminis puisse détecter plus rapidement sur plusieurs canaux différents. Et donc, il s'agit d'un réseau multitâche à cascade, avec trois réseaux qui se succèdent, donc un proposal network, un refinement network et un output network. Chaque réseau va générer, le premier réseau va générer des candidats, et les autres réseaux suivants vont supprimer les candidats qui ne correspondent pas ou qui ont une confidence trop faible. Et donc chaque réseau est entraîné via une loss multitâche avec une tâche de classification. Y a-t-il un visage ou non dans le candidat, régression des bounding box et ensuite localisation des landmarks. Et chaque réseau est différent. Ces trois réseaux-là sont différents de par le poids alpha que l'on met sur chacune des tâches. Donc le dernier réseau met l'accent sur les landmarks, par exemple.
Et donc ensuite pour l'embedding. Donc l'idée d'un embedding, comme ce qui a été expliqué pour le challenge CFM, en fait, c'est de construire un espace euclidien. On peut rapprocher donc ici ça va être de rapprocher les images d'un même visage et d'éloigner les images d'un visage différent. Donc en fait pour faire ça on utilise un algorithme et surtout une loss qu'on appelle une triplet loss. Donc en fait on prend trois images, deux images d'une même personne et une image d'une autre personne et on va essayer donc de construire un réseau qui va apprendre à rapprocher les images de la même personne et éloigner l'autre, notamment avec la loss qui est là avec le paramètre alpha. Donc pour obtenir la loss, on fait la différence. Et donc on utilise FaceNet, qui est surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il crée un embedding qui est assez petit, donc dans une dimension 128, et donc assez rapide à calculer.
Donc ensuite, une fois qu'on a ces embeddings, on va mettre par-dessus un classifier pour prédire la classe de l'embedding, du nouvel embedding. Donc on a fait plusieurs classifiers, des classiques comme softmax, des multilayer perceptrons et en particulier des méthodes de nearest neighbor. Je vais préciser la différence entre un nearest neighbor, un k-nearest neighbor et un radius nearest neighbor. Pour une classe d'une personne qui n'est pas un acteur, donc on appelle ça la classe poubelle, dans le cas d'un k-nearest neighbor, on va quand même assigner une prédiction à cette classe, donc l'acteur le plus proche, tandis que dans le cas d'un radius-based, on va s'apercevoir que si le nouveau point se trouve dans une zone de l'espace qui est vide et qu'il n'y a aucun point dans cette boule, et bien dans ce cas-là, on peut l'assigner à la classe poubelle. Donc ça permet d'être plus robuste aux outliers, et sinon, grâce au radius neighbor, grâce au radius, on peut faire la moyenne pondérée des éléments appartenant à cette classe, des data points appartenant à cette boule, pardon.
Et donc ensuite, la grande difficulté la difficulté du challenge, c'est que nous, pour l'entraînement, on avait des images, et il fallait prédire sur des tracks, donc on possédait plusieurs images. Donc ce qu'on a fait, c'est on a utilisé un algorithme de radius nearest neighbor qu'on a fait voter en fait sur toutes les tracks. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la track, on calculait un embedding pour chacune des images. Ensuite, on avait donc un résultat potentiel pour chacune de ces images. Et en plus de ça, pour avoir de meilleurs résultats, on moyennait les embeddings pour avoir aussi une nouvelle image où on faisait par exemple aussi des moyennes glissantes. Et à la fin, on faisait voter tous ces résultats pour obtenir la prédiction de la track. Donc qu'est-ce qu'on a essayé ? Donc tout d'abord, nous, on a vraiment accentué ce challenge sur la rapidité et sur justement l'arbitrage entre rapidité et précision. Donc déjà sur est-ce qu'on doit considérer toutes les images et surtout créer peut-être de nouvelles données, puisque nous ce qui nous intéressait au final, on a beaucoup travaillé sur l'espace d'embedding plutôt que sur l'espace image. Et sur cet espace d'embedding, donc on a fait de la data augmentation en moyennant des embeddings et en faisant de la data augmentation, en changeant par exemple sur les images de départ, le contraste, en les tordant, etc. Et on a joué aussi pas mal sur les modèles de classification, donc nous, on est resté sur un modèle de voisinage, mais on a essayé d'autres algorithmes comme des softmax ou des multilayer perceptrons. Ensuite, on a eu pas mal de difficultés, donc pour notamment sur la partie train et pour évaluer notre training, puisque comment on allait faire en fait pour le validation set, est-ce qu'on découpait une track en deux, ou en fait si on ne considérait pas des tracks et qu'on testait sur de nouvelles tracks qu'on n'avait jamais vues, on avait certains problèmes, et aussi sur le paramétrage sur le fine tuning, notamment l'algorithme qu'on a fait. Et il y avait pas mal de paramètres sur le modèle et aussi sur la data augmentation, sur aussi l'image cropping en fait, puisque lorsqu'on met l'algorithme de face detection, on peut très bien cropper l'image pour se concentrer encore plus sur le visage, ou rajouter un peu de bruit et donc augmenter notre espace de départ. Et enfin sur la classe poubelle, comment considérer les personnes qui ne sont pas connues aux yeux de Reminis.
Voilà, donc on avait la pipeline de MTCNN, ensuite de FaceNet qui nous amène dans les embeddings. Maintenant on a fait pas mal d'expériences. On a fait de la data augmentation, donc c'est-à-dire des rotations, on a flouté l'image, on a rajouté toutes ces données-là à l'ensemble d'entraînement. Pareil, dans l'espace d'arrivée, dans l'espace de FaceNet, comme on considère que c'est un espace convexe, on peut rajouter, on peut faire de la data point augmentation dans l'espace d'arrivée en faisant la moyenne entre des éléments d'une même classe, donc deux data points de la classe d'un acteur, on va créer un troisième data point qui correspond à la moyenne. Cela permet de densifier l'espace, puisque comme on utilise un radius neighbor search qui va utiliser la similarité et la distance entre les différents points, en rajoutant des points et en densifiant l'espace, on permet de ne plus avoir de région de l'espace vide. Et enfin, on a fait des moyennes pondérées sur les tracks. Donc les résultats, on a fait pas mal de tests, c'est là où je rejoins aussi la première présentation, où il faut garder en mémoire toutes les expériences, parce qu'on oublie facilement et rapidement. Et donc on a essayé plusieurs classifiers. Notre meilleur résultat, c'était en faisant la data augmentation et l'augmentation sur les embeddings, donc en créant des nouveaux data points dans l'espace d'arrivée. Sur le validation set, on arrive à cette accuracy là. D'un point de vue efficacité et d'un point de vue storing des embeddings, on est efficace parce qu'on arrive à une dimension de 128, d'un vecteur de 128 dimensions. Et sur l'inférence, on fait une inférence pour une image à 60 fps, ce qui est assez intéressant pour un vrai usage.
Et donc ensuite, on s'est posé des questions sur comment faire pour aller un peu plus loin. Donc c'est des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais qu'on aurait pu faire. C'est déjà de combiner toutes les données, puisque comme on a vu, enfin nous on a beaucoup travaillé sur la data augmentation, mais après on avait des problèmes de coûts computationnels, donc on a un peu diminué ça. Aussi utiliser des algorithmes de frontalisation comme DeepFace, où en fait par exemple si vous avez votre visage qui est donc à droite, le remettre droit, comme ce qu'on peut voir là sur l'image, et utiliser un algorithme donc, comme celui-ci, qui permet donc de normaliser un peu les données. Mais là, par exemple, on arrive à un embedding de dimension 4000. Et enfin, surtout, c'est d'améliorer en fait, le classifier, puisque le problème du radius neighbor search, c'est qu'en fait, il va croître linéairement avec le nombre de données. Et donc ça peut être un problème. Et on pourrait, en fait, avec beaucoup de data, par exemple, entraîner un multilayer perceptron pour aller plus vite sur la partie vraiment inférence. Et donc, en conclusion, donc on a aussi pas mal d'erreurs sur les différentes sources de données. On avait pas mal de bruit sur les tracks, surtout. Et donc, on s'était dit qu'on aurait pu, par exemple, normaliser l'illumination ou supprimer certaines images qui sont un peu trop différentes. Rajouter, en plus, donc des données qui sont différentes des tracks, mais des données web. Et surtout, enrichir la classe poubelle. À la fin, on arrive quand même à 87,2% sur le test final. Et surtout, on a réussi à faire une détection en real time avec un embedding de 128 dimensions. Merci beaucoup.
Avec la remise de l'ensemble de tous les prix, où je vais appeler donc les organisateurs des challenges avec les gagnants. Donc d'abord, il y a eu le prix proposé par Engie, dont le gagnant était Étienne Seckinger. Donc c'était un prix sur la prédiction de la production d'énergie éolienne.
Donc je ne sais pas si le représentant d'Engie est là. Félicitations. Le prix suivant donc, du sixième challenge qui était proposé par Rakuten France Prize Minister a été gagné par Elie Salem. Si Elie Salem est présent. Et le représentant de, Rakuten, de Prize Minister, merci de venir. Félicitations. Si vous voulez dire un mot, vous n'êtes pas forcé.
Bah, merci beaucoup d'ouvrir des données pour faire des challenges.
Et sur l'organisation, il y a eu quelque chose de spécifique, non ? Vous avez un commentaire sur le challenge ou...
Non, ça fait 2 ans qu'on participe au challenge et c'est très intéressant pour nous. On est ravis de contribuer avec des données.
Merci beaucoup et bravo encore. Le challenge suivant était proposé par Lumen AI. Je vais quand même assez vite parce qu'il faudra quand même aller manger après. Donc Lumen AI, prédiction de l'équipe de vainqueurs d'un match de NBA, donc de basketball. Donc c'est un sujet vraiment important. Et donc le gagnant était Omar Sek. Bravo. Je ne sais pas s'il y a un représentant. Non. Tenez, vous n'allez pas partir sans le livre quand même. Ça serait dommage. Rien. Le challenge suivant était proposé par Oz Energy. Et les meilleurs participants étaient Adèle Gillier et Adrien Lefranc. Bravo. Et le représentant d'Oz Energy est là. Félicitations.
On est toujours content de participer au challenge. Et c'est à chaque fois intéressant sur des sujets qui sont renouvelés. Et notre activité étant à la fois d'améliorer le confort et l'énergie dans les bâtiments sans faire de travaux, en utilisant l'intelligence à travers des capteurs et de l'intelligence artificielle. C'est toujours intéressant d'avancer dans la démarche. Entre autres par les contributions que peuvent apporter les participants au Data Challenge. Et on vous remercie, et on remercie aussi l'organisation qui est très intéressante.
Merci. Merci beaucoup et félicitations à nous. Ah oui, 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 bien sûr. Alors, le 9e challenge était proposé par Dassault Systèmes. C'était un challenge sur la prédiction d'approbation de publication. Parce qu'il est le représentant qui va venir sur scène, et le meilleur participant était Jonathan Sio. Parce que... Bravo. C'est quand même important de prendre voir les représentants si vous voulez discuter avec eux des challenges, de ces différents problèmes. Le 10e challenge était dans une gamme très différente parce que ça a été proposé par un laboratoire joint de physique fondamentale du CEA et de l'École normale supérieure. Et donc c'est un laboratoire de physique qui nous proposait de faire de la prédiction de la dynamique de liquide surfondu. Et le gagnant était Paul Vemmet. Bravo.
Bravo, merci pour la participation. Donc on n'a pas renouvelé le challenge cette année, mais on envisage de peut-être l'an prochain, enfin prochainement, d'en proposer un autre. Il était assez difficile, il y a plusieurs façons de poser le problème et c'était assez dur. Le meilleur score, je crois, c'était autour de 60%, enfin c'était vraiment assez difficile. On envisage de faire peut-être de reposer un problème, disons, le même problème physique, mais posé différemment en termes de data challenge. Donc en tout cas, merci beaucoup pour la participation et bravo.
Merci, bravo. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que ces challenges sont sur des vrais problèmes. Donc là, c'était vraiment un problème physique où on se posait la question, quoi. Ils se posaient la question s'il pouvait y avoir une solution sans résoudre les équations de Newton directement du problème à N-core. Mais c'est le cas dans la plupart de ces challenges. Donc parfois les challenges sont très compliqués comme c'était le cas et pourtant il y a des belles solutions qui sont obtenues, donc c'est des belles expériences. Le 11e challenge était proposé par Wattstrat, des sociétés, donc sur la prédiction de la production électrique horaire par unité de production en France. Et le meilleur participant était Jonathan Sio. Bravo. Donc c'est son deuxième challenge qu'il a gagné, et il n'y a pas de deuxième bouquin du coup. Par contre, il y a un deuxième calendrier, si vous voulez, frère. Bravo. Vous voulez dire quelque chose ou...
Merci à tous ceux qui ont participé, s'il y en a ici dans la salle. Et juste pour info, on a fermé la boîte entre-temps. Donc voilà. Mais en tout cas, le problème était joli. Merci.
Bon, ça ne porte pas toujours chance. Hein. Mais merci beaucoup d'avoir présenté ce challenge. Et le 12e challenge est un challenge qui était présenté par l'IFPEN sur la prédiction de la saturation d'huile résiduelle. Donc ça a été un challenge qui a été gagné par Hervé Durand. Bravo. C'est vous qui avez gagné. Oui. Donc oui. Absolument. Non, ça, c'est un des aspects, c'est que les gagnants viennent d'absolument partout. On a eu d'ailleurs des gagnants russes et allemands, donc on va leur envoyer le prix, mais de tout background. Et félicitations, je ne sais pas si vous voulez.
Pas de commentaire, mais un remerciement surtout donc à Mathieu Andrieux, John Zarka et Stéphane Mala, parce que pour avoir essayé, organiser un challenge, c'est beaucoup de boulot, maintenir la plateforme, gérer les relations avec les entreprises, les étudiants et tout. Donc merci.
Et là, je confirme, en fait, le fait de faire des premiers essais sur les données, etc. Ceci étant, c'est une expérience intéressante pour les challenge providers de développer cette méthodologie en interne pour construire ces challenges. Donc, j'engage ceux qui ont envie de le faire pour l'année prochaine. Et le dernier challenge qui a été répété cette année parce qu'il est autour du langage naturel et il n'y en a pas beaucoup, était proposé par la société Pozos, donc sur un problème de prédiction de la réponse attendue à des questions pharmaceutiques. Et donc cette année, il a été gagné par Elie Salem. Merci. Ah oui. Donc, qui est un deuxième gagnant, mais qui est un deuxième certificat. La société Pozos, je ne sais pas s'il y a un représentant, il n'y a pas de représentant. Félicitations à nouveau. Et je remercie donc tous les participants donc, de ces challenges de cette année 2018. Et donc, je vous propose qu'on se retrouve autour d'un pot pour rencontrer les challengers et les fournisseurs. Voilà. Merci.